Donc, nous sommes le 12 novembre 2005 à la convention de disques qui se tient au pub Long Shop. Et je suis en compagnie de All Stark, donc Olivier, un des organisateurs. Et on va tout d'abord non pas parler de la convention, mais de son action au sein de la scène Northern Soul, si on peut dire française. Tu es un peu un des ambassadeurs à Paris. Donc tout d'abord, je voudrais que tu nous présentes ce que c'est la scène Northern Soul.
Alors, la scène Northern Soul a commencé vraiment en Angleterre. C'est-à-dire, c'est des gens, dès la fin des années 60, qui effectivement collectionnaient et ont créé une scène, en fait, aussi bien au niveau des DJ qu'au niveau de toute une culture musicale, au niveau de la soul music, qui est surtout partie des États-Unis, mais les États nord des États-Unis, c'est-à-dire Chicago, Détroit. Et donc en fait, la scène Northern Soul, qui s'est créée donc en Angleterre, a effectivement au départ fait venir beaucoup d'artistes de soul, comme James Brown, Martin de Vandellas, j'allais dire plutôt des classiques de la Motown, de Stax, etc., qui venaient donc dans des soirées qu'on appelle en Angleterre les all-nighters. C'est très important, c'est des soirées effectivement qui regroupent dès la fin des années 60 2000, 3000 personnes quand c'est des gros événements. Et en fait les Anglais ont vraiment développé le côté entre guillemets fashion en donnant un style effectivement aussi bien vestimentaire, en classifiant effectivement la musique, la rare soul, effectivement en dénominant ça comme Northern Soul. Voilà un peu l'origine du mouvement qui s'est très développé dans les années 70 avec effectivement des gens qui portaient des tenues avec des patchs arbornant la Northern Soul. Et bien sûr, ça s'est développé au monde entier. Maintenant, on trouve des clubs un peu partout en Europe.
D'accord, donc Northern Soul, c'est les Anglais.
C'est les Anglais, effectivement, qui ont inventé le terme. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est toute la soul rare et pour les gens mordus de soul music des années 60-70, les Anglais ont effectivement inventé ce terme pour peut-être, pour se différencier de tout ce qui est classique dans la soul, c'est-à-dire la Motown de base, le Stax essayer de trouver les sons les plus rares de tout petit label et de faire une vraie scène autour de cette musique. On peut comparer ça effectivement entre, j'allais dire, le funk classique et des gens, je dirais, comme Kate Barge, qui ont arpenté les États-Unis ou avec des connexions de dealers là-bas, qui ont effectivement essayé de trouver le son le plus rare possible pour faire découvrir aux gens, je vais dire, les fondements de cette musique et non pas ce qui passe effectivement à la radio, même aux États-Unis où le son est quelque part très classique sur les plus grandes radios. Et voilà.
Donc rechercher des sons rares, aller fouiller les bacs, c'est plutôt un truc de DJ. Comment t'expliques que les gens ont adhéré et qu'on pouvait trouver jusqu'à 2000, 3000 personnes dans ces soirées-là?
Alors, je pense qu'en Angleterre, en fait, les Anglais ont été toujours précurseurs sur le côté monter une scène et une culture autour d'une musique. C'est-à-dire, à l'instar de ce qui s'est passé avec le mouvement punk, où effectivement les premiers groupes, tout début années 70, c'était des groupes américains à New York et dans d'autres villes, comme Seattle, Philadelphie, plein d'autres. Les Anglais ont su effectivement coller sur ce son les habits et tout le merchandising qui va autour. C'est pour ça que tous les mouvements sont quasiment partis d'Angleterre, aussi bien sur la New Wave, etc. Pas forcément les Anglais qui ont inventé ce style musical, même très rarement. Beaucoup de sons viennent des États-Unis, mais effectivement, ils ont toujours développé une scène. Par exemple, aux États-Unis, C'est un peu un paradoxe, mais les soirées Northern Soul, les DJ qui sont invités quand il y a des grands événements, c'est pas des DJ américains, c'est des DJ anglais, c'est ça le cachet de la soirée, c'est les gens qui ont effectivement fait le plus de voyages aux États-Unis pour amasser des stocks et des stocks de disques, plutôt les 45 tours. Et effectivement, en Angleterre, il y a sûrement plus de Northern Soul en termes de nombre de disques que dans les boutiques où effectivement, sur des conventions de disques, il y a sûrement beaucoup plus de disques en Angleterre.
D'accord.
Les rares sont partis en Angleterre.
Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des DJ de cette scène et est-ce que c'est une scène vraiment uniforme ou est-ce qu'il y a plusieurs mouvements au sein de cette scène, plusieurs courants musicaux?
Alors, en fait, les très grosses soirées Northern Soul souvent sont divisées en deux salles, c'est-à-dire les salles avec du son plutôt 60s, je dirais qu'il va de 64 à la fin des années 60, et effectivement une autre salle 70 soul, modern soul, qui effectivement c'est pas tout à fait le même public. Parallèlement à la Northern Soul, s'est développée aussi une grosse scène modern soul en Angleterre, où effectivement il y a des gens qui sont plus à écouter du son 80, mais soul music est plutôt rare, etc.
Okay, donc on reste toujours dans la rareté pour la modern soul.
Également. De toute façon, moi personnellement, j'étais très souvent en Angleterre dans des soirées où, bien que j'ai pas mal d'années de collection derrière moi, j'ai déjà vu, et très très souvent, des DJ faire des sets où je ne connais pas un seul morceau. Et c'est aussi ça le plaisir, c'est d'aller dans des soirées où effectivement les gens ne passent pas les mêmes classiques parce que tout le monde s'attend à ce morceau en demande, mais un DJ qui va passer et qui aura peut-être trouvé des disques à 1$ aux États-Unis, mais des tueries musicalement, et qui va impressionner tout le monde. D'ailleurs, souvent les sets très appréciés sont ponctués par des applaudissements de toute la salle, et c'est ce qui fait aussi ce qui fait réellement vivre le mouvement, c'est-à-dire que c'est inépuisable. Comme dit un slogan, la soul est probablement la meilleure musique in the world. Et c'est tellement inépuisable qu'il y aura toujours des gens qui arriveront, qui feront un set super béton, mais dont personne ne connaîtra les morceaux, parce que le mec aura fouillé dans un vieux garage ou en connaissant un black à Détroit qui lui aura indiqué effectivement où trouver des disques. Voilà.
Et qui sont ces DJ donc ?
Bon, y en a beaucoup, je ne vais pas les citer.
Au moins les précurseurs.
Non, par contre, ce que je peux effectivement plutôt indiquer, c'est que les plus gros clubs sont effectivement à Londres. Maintenant, en Allemagne, ça s'est beaucoup développé également. Et à savoir, à Londres, il y a deux grosses soirées. C'est le 100 Club qui existe depuis les années 70, tous les mois. Superbe soirée avec des danseurs de folie, parce qu'il y a aussi, parallèlement, bien sûr, au code vestimentaire, au côté DJ, musique, etc., des danses qui se sont développées très acrobatiques, c'est-à-dire vraiment le prémisse du hip-hop, hein. Dans la rue, effectivement, on retrouve les mêmes types de figures sur les pistes de danse, avec moi des fois des gens qui m'ont impressionné, des mecs de 50 balais qui font un salto arrière sur une main et qui talquent la piste de danse pour que ça glisse, et c'est assez impressionnant. Des gens d'ailleurs viennent en chaussons de danse dans les clubs, se changent trois fois dans la soirée, aussi bien quand ils vont faire des figures athlétiques sur le sol ou pour danser plus smart sur d'autres sets.
Et ça, c'était déjà le cas dès la fin des années 60.
Dès la fin des années 60, ouais, effectivement.
Ouais, donc c'était déjà la culture club.
Tout à fait. Je pense que parallèlement dans la scène soul, effectivement, il y a eu une image énormément portée également sur la drogue, les pilules, amphétamine, etc., où les mecs venaient pour... C'est pour ça que je parlais du côté all-nighter tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fallait tenir toute une nuit jusqu'à 8-9 heures du matin, parfois sur tout un week-end. Et effectivement, il est vrai que dans ces années-là, bon, c'était les années 70 qui voulaient ça, mais on pourrait comparer effectivement, mais avec, je pense, plus d'intérêt visuel et surtout au niveau des danses. On pourrait comparer à la fin des années 90, au début des années 90 ou à la fin des années 80, où les premières rêves se sont montées à Paris. Mais effectivement, on n'est pas du tout sur le même créneau. Mais je pense qu'il y avait effectivement ce côté un peu drug party qui était purement par rapport à l'époque des années 70, où les gens consommaient beaucoup plus. Mais dans ce cas, pour danser et pour impressionner sur une piste de danse, pour impressionner, pas spécialement, mais je veux dire, pour c'est des grands danseurs. Je veux dire, c'est des gens qui sont, j'allais dire, qui ont l'héritage de ce que faisait James Brown sur les scènes. Et voilà.
Donc j'ai une autre question, c'est que souvent la Northern Soul est associée au mouvement Mods. Alors est-ce que tu peux nous donner le lien et nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est cette scène?
Tout à fait. Alors en fait, le mouvement Mod a commencé tout début des années 60. En fait, c'était un peu en rupture avec les rockers, le rock'n'roll, ce qu'on appelait en français les graisseux, c'est-à-dire les mecs qui se mettaient de la gomina dans les cheveux, qui roulaient en grosse moto anglaise et avec une attitude très prolétaire. Le mouvement mode est arrivé derrière, je pense qu'il correspondait effectivement aux 30 Glorieuses, c'est-à-dire le début des années 60 a commencé à marquer un boom économique et donc les gens étaient un peu moins beaucoup de courants musicaux commençaient à arriver. L'après-guerre était un peu difficile, c'était le balbutiement et effectivement d'autres courants ont émergé dans les années 60. Je pense que les années 60 d'ailleurs est vraiment l'époque où il y a eu le plus de genres musicaux qui ont été créés, le funk, rare groove, le 60s, le garage, le psychédélique, j'en passe d'autres, reggae, etc. Et par conséquent, les modes effectivement sont arrivés dans le début des années 60 avec un côté vachement dandy, qui roulait en Vespa, qui aimait, même s'ils n'avaient pas d'argent, d'avoir une tenue super classe, de se faire tailler des costumes sur mesure. Et effectivement, en Angleterre, je pense que la soul a eu énormément d'impact dans la société dès le début des années 60. Sûrement peut-être parce que l'Angleterre est le pays le plus anglo-saxon d'Europe, par définition. Et forcément, cette musique et la musique jamaïcaine également, à cause de l'immigration jamaïcaine qui était assez présente en Angleterre, ce son black a été vraiment ancré, j'allais dire, chez les jeunes blancs anglais. Et les années 60, effectivement, étaient vraiment l'apogée du mouvement mode. Et ce qui était la même chose pour les rockers dans les années 50. C'est-à-dire tout le monde était rockers dans les années 50. On a connu nos blousons noirs en France, etc. Dans les années 60, beaucoup de chanteurs qui ont fait du rhythm and blues français, comme Noël Deschamps, Ronnie Bird, etc., étaient plus ou moins des modes. Même Jacques Dutronc a déjà fait des interviews et expliqué qu'il découlait d'un mouvement dandy, Alain Chamfort également, dont ce groupe s'appelait Les Modes.
Et comment s'est fait le passage avec la Northern Soul? Naturellement, quoi, on a abandonné.
Naturellement, je pense que les premiers modes écoutaient effectivement tout le répertoire, ce qu'on appelait du British Beat. C'est en fait des groupes anglais qui pillaient complètement le registre black américain de rhythm and blues, de blues, et l'ont mis à une sauce, j'allais dire, plus blanche, avec plus de guitare fuzz, un son blanc en fait. C'est ça la grosse différence. Mais effectivement, pour prendre une caricature, les Rolling Stones ont complètement pillé tout le registre black américain, blues et blues rock. Donc, la soul est arrivée très rapidement dès la fin des années 60, où il est vrai qu'effectivement, les caractéristiques du mouvement avec ses codes de fringues, etc., sont passées beaucoup par les modes, mais pas uniquement. Parce qu'en Angleterre, la soul était tellement présente, c'est-à-dire chaque petite ville avait son club mode. Mais également son club de soul. La plus petite ville en Angleterre avait un club qui réunissait 500 personnes dès les années 70, du sud au nord de l'Angleterre.
Donc bah merci pour ce petit récapitulatif pour, sur la scène Northern Soul et les modes. Et maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de toi. Donc comment tu as découvert la soul? Comment tu as découvert cette scène anglaise?
Alors, moi, au départ, j'ai plus écouté dans... Donc, vers 14-15 ans, donc première partie des années 80, j'ai plus écouté effectivement de la musique jamaïcaine, ska, reggae, rocksteady. Et effectivement, quand on écoute du ska, du reggae et du rocksteady, il y a forcément un moment ou un autre où on va entendre des morceaux beaucoup plus soul ou funky reggae. Et forcément, je dis personnellement, je pense que la... On peut très rapidement faire le tour dans le ska reggae parce qu'il y a eu très peu de producteurs en Jamaïque. C'est une petite île. Donc forcément, arrive un moment où on fait le tour de tous les sons différents. Et pour moi, la soul et le funk a été vachement une ouverture. Et bah, jusqu'au moment d'être accro et être plus lâché. Et je pense que je ne ferai jamais le tour car... tous les jours, je vais entendre autre chose que je connais pas, que je soupçonnais pas, et aussi bien à danser qu'à écouter. Et pour ça, effectivement, le ska reggae était un peu. On se limite un peu. Et je suis plutôt ouvert musicalement à écouter d'autres choses. Donc, forcément, il y a tellement un esprit, un champ large dans la soul et le funk. Naturellement, fin des années 80, j'ai commencé à collectionner ce type de son.
Et quand est-ce que tu es passé derrière les platines ?
Eh bien, très tard, malheureusement. Je collectionnais déjà des disques, mais j'ai commencé par organiser des soirées tout début 90, qui étaient effectivement des soirées... 60s entre guillemets, parce qu'on a toujours passé du son 70s avec beaucoup d'acid jazz, du son mode anglais, de la Northern Soul, de la musique plus aussi psychédélique, garage, vraiment moitié musique blanche, moitié musique black. Ça a été un peu le concept qui a fait que on a réussi un peu à unifier des gens qui écoutaient soit l'un soit l'autre sans sectariser justement, et essayer de monter une scène 60s en France. Ce qui est très difficile parce que beaucoup de gens, quelque part, vont faire preuve de sectarisme. C'est-à-dire les gens qui écoutent de la musique blanche n'aiment pas la musique black et vice-versa. Donc c'est pas évident, ça a été un pari, mais il y a eu quand même des très grosses soirées à Paris avec des groupes anglais que je fais passer depuis des années, qui ont ouvert un peu les oreilles aux gens et j'espère leur champ d'esprit également.
Ton association Mode Action date de cette époque-là aussi ?
Tout à fait, tout à fait. Donc l'association elle a été montée en 1995, après effectivement 4-5 ans de soirées assez régulières, mais déjà peut-être plus petites. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin effectivement de monter ça en association, pour que chacun ait un rôle bien défini, bah, pour faire monter un peu la crème, parce qu'on sentait que... Dans le début des années 90, avec l'omniprésence de la musique électronique et techno, qu'effectivement il y avait autre chose à faire parce que les gens étaient un peu perdus à Paris à se retrouver avec plus aucune soirée avec un son soul, funk et 60s en général. Et c'est là qu'est venue l'idée effectivement de fédérer un peu le truc et que ça prenne un peu plus d'envergure que de faire des soirées dans des pubs. Voilà.
Et du coup, ça marche, il y a une scène... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une scène Northern Soul à Paris ?
Non, non, non. Il y a quelques collectionneurs de disques, quelques DJ. Je pense qu'à Paris, il est quasiment impossible de faire une soirée Northern Soul d'envergure, parce qu'en fait, ça va être 50 initiés qui passent leur temps d'ailleurs en Angleterre ou dans le pays en Europe, où là, effectivement, ça a beaucoup plus pris et depuis beaucoup plus d'années. Donc forcément, je pense qu'à Paris, si, mis à part dans le funk, si on ne met pas un peu d'éclectisme musicalement, par exemple, de faire une soirée Northern, c'est trop pointu, il y a trop peu de gens pour effectivement faire quelque chose d'intéressant. Mais ça serait J'espère qu'un jour, effectivement, les gens vont se tourner de plus en plus vers cette scène méconnue, parce que quelque part, c'est très méconnu. Maintenant, de plus en plus de gens connaissent le mot Northern Soul, mais sans vraiment savoir ce que c'est.
Tu peux nous parler de ta soirée Move On Up, donc, qui a lieu assez régulièrement sur Paris ?
La soirée Move On Up est complètement une soirée où, effectivement, on mélange le son blanc et black, donc le son principalement anglais et américain, et un peu de son français, 60s, 70s également. Généralement, la soirée commence par un ou deux concerts, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus ancrés dans le côté concert dans la scène 60s que dans le côté clubbing. Et c'est pour ça qu'on a toujours voulu mettre en avant également des groupes qui viennent de l'étranger pour les faire connaître. Parce qu'une fois de plus, c'est une scène un peu underground. Et mis à part, je dirais, des gens qui organisent des gros festivals, ce genre de groupe européen a très peu de chances de passer en France à Paris, car ils sont inconnus et ne correspondent pas au créneau de l'époque musicale.
Ok, donc merci beaucoup Olivier de nous avoir éclairé sur ce qu'est la scène Northern Soul et les modes. Et j'invite tout le monde donc à aller à la prochaine Move On Up pour découvrir cette musique le jeudi 24 novembre 2005.
Au Citéa.
Au Citéa, pardon.
Eh bien, merci.